Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Women of the Seas. Récits d'aventure en mer, portraits de femmes au destin incroyable.
C'était à 120 mètres sur l'île de Makatea et je suis vraiment très très heureuse d'avoir pu plonger à 120 mètres là-bas parce que cette île de Makatea elle est incroyable. C'est pas un atoll, c'est une île où le récif tombe vraiment à pic. C'est raide, c'est un mur qui descend et il se trouve que sur ce mur on a eu la surprise de rencontrer un récif corallien profond comme on pouvait même pas en imaginer. Le récif est couvert d'énormes leptozéristes. C'est des coraux qui font comme des énormes assiettes, alors qu'on est profond, dans une eau hyper claire, et c'est vraiment une plongée incroyable.
Emmanuelle Perrier-Bardou, 41 ans. Plongeuse profonde embarquée à bord du voilier Le Wai, dans le nord de Pôle.
Ben moi, j'étais pas forcément prédisposée à vivre en mer et à faire de la plongée parce que je suis née à Paris et j'ai grandi en Champagne à Troyes. Mais en revanche, aussi loin que je me souviens, donc vers mes 4 ans, je pense, j'étais passionnée vraiment par les cétacés et par l'océan en général. Donc je regardais tous les documentaires de Cousteau, je rêvais de faire de la plongée sous-marine, je rêvais d'intégrer l'équipe Cousteau, je lisais que des livres autour de ça, c'était vraiment une passion très forte. J'ai été très surprise à l'âge de 12 ans en tombant sur un documentaire qui montrait des enfants qui arrêtaient l'école pendant quelques mois pour partir sur un bateau, sur un vieux gréement. Et j'ai tout de suite su que je voulais faire ça. Sauf que mes parents ne le voyaient pas du même œil et finalement, en insistant beaucoup et puis eux en ayant les responsables de ces expéditions là pour les enfants au téléphone, qui leur ont dit qu'il y avait très peu de place, j'ai postulé et je suis finalement partie à 13 ans, 6 mois sur un bateau. On a fait un mois de tour de Bretagne, ensuite on a traversé le golfe de Gascogne vers l'Espagne, le Portugal, les Canaries, où on est resté longtemps à la Graciosa, où on plongeait énormément en apnée. Et après, on a fait route vers le Maroc. On a descendu la côte marocaine, on a laissé le bateau pendant un temps, on est allé dans l'Atlas pour voir comment vivaient les Berbères. L'idée, c'était aussi de voir comment des peuples différents de nous vivaient. Et puis finalement, on a retraversé vers Gibraltar où ça s'est terminé. C'était complètement incroyable, mais le retour à Troyes en Champagne au mois de novembre, c'était un peu dur, quoi. Moi, je savais même plus marcher dans des chaussures. Accessoirement, je m'étais fait mordre par un singe à Gibraltar. J'avais fait une espèce de septicémie. Les autres élèves de ma classe de 3e me prenaient pour une dingue. C'était la fille qui arrivait d'un bateau au Maroc avec un bandage au bras parce qu'elle s'était fait mordre par un singe. Et j'étais plus du tout dans les mêmes tripes qu'eux. Ouais, la réadaptation a été un peu compliquée. Et ça a été un peu la révélation parce que je suis passée de mes rêves en fait à la réalité de vivre en mer, c'était pas facile. Hein. On avait un équipage d'adolescents, on prenait nos quarts, on avait le mal de mer, on devait faire la cuisine, on devait tout faire à bord. Et en même temps, moi, ça a été l'expérience de ma vie, vraiment fondatrice. Et à partir de là, je savais que j'aimais vivre en mer et que j'avais envie de faire ça. Le lendemain de mon bac, je suis partie pour la Bretagne. Au bout de quelques mois, en fait, j'ai demandé au Glénan s'il y avait une formation pour devenir monitrice de voile. Et j'ai intégré une formation professionnelle, je suis devenue monitrice de voile, puis j'ai passé mon brevet d'État à l'École nationale de voile à Quiberon. Et j'ai travaillé à l'école de voile des Glénans pendant 5 ans, où je m'occupais d'une île qui s'appelle Pinfrette, où j'étais responsable de cette base pendant 3 ans. Et je serais sûrement restée y travailler si j'avais pas croisé le chemin d'un équipier de Jean-Louis Etienne qui m'a proposé de partir pour l'expédition Clipperton. Alors pourquoi ? Parce que Clipperton, c'était un atoll très isolé et que le débarquement allait être difficile qu'en voyant ce qu'on faisait, nous, au Glénan, sur les îles, avec les zodiacs, avec les départs, les arrivées de plage, le fait qu'on devait débarquer et redébarquer toutes les vivres, toute l'eau, avec mon pote Sam. Il s'est dit que notre expertise là-dedans pouvait servir à cette expédition. Et c'est comme ça que je suis partie pour ma première expédition avec Jean-Louis Etienne, à Clipperton, où j'ai fait mes premières plongées bouteilles. Et quand on est rentré, la première chose qu'on a fait, c'est d'aller au CIP, qui était le centre de plongée, qui se trouvait aussi au Glénan. Et de passer notre niveau 2 puis notre niveau 4 de plongée sous-marine parce qu'on se disait que c'était une super corde à notre arc de plus pour le milieu des expéditions qu'on avait envie d'intégrer. Et c'est là que j'ai rencontré Guylain. Quand je suis arrivée pour faire mon niveau 4, c'était mon moniteur. J'avais assez peu d'expérience puisque je venais de passer mon niveau 2, mais j'étais déterminée à faire tout ça assez rapidement pour pouvoir vite être qualifiée pour repartir et pouvoir être et marin et plongeuse. Et on s'est assez rapidement rapprochés. Et puis Guylain, il était en train de faire des études d'ingénieur à l'École polytechnique de Lausanne. Et il rêvait d'expéditions, de tout ce qu'on faisait. Et je l'ai présenté à Jean-Louis Etienne quelques mois plus tard. Et finalement, Guylain a fait une année de césure, un peu plus qu'une année d'ailleurs, pour travailler avec Jean-Louis Etienne et organiser l'expédition en dirigeable qui devait avoir lieu au Pôle Nord géographique. Et dans ce cadre-là, il a organisé une campagne de plongée sous-marine au pôle Nord. Et il est revenu en disant « Mais là, c'est complètement dingue, il y a un monde à découvrir, mais on ne peut pas se suffire de quelques plongées. Il faut monter une expédition autour de ça avec du temps, avec des déplacements, parce que la banquise, elle n'est pas partout pareille. Et du coup, le décor sous-marin, il change au gré des kilomètres qu'on parcourt. » Et voilà, cette idée l'obsédait complètement. Et c'est comme ça qu'Under the Pole est né. On a commencé à vraiment chercher une équipe, à se dire qui pouvait en être. Au début, on voulait être quatre et on s'est rendu compte qu'avec le matériel de plongée, le compresseur, fallait qu'on soit plus nombreux pour pouvoir tirer les traîneaux qui allaient déjà être assez lourds. Quand on a été déposé au pôle, moi j'avais 30 ans, Guy en avait 29. On était 8 personnes sur la banquise, plus une personne sur la base arrière, notre chien, nos traîneaux, des images, et voilà, il y a un énorme défi à accomplir. En fait, à ce moment-là, j'avais déjà passé mon monitorat fédéral premier degré et mon brevet d'état de plongée. Mais relativement, à l'époque d'Under the Pole 1, j'étais une assez jeune plongeuse. J'avais plein d'expériences diverses, assez rares, hein, parce que j'avais commencé à plonger à Clipperton. Après, j'ai fait toute ma formation en Bretagne, qui sont pas des conditions faciles, qui sont très formatrices. J'ai plongé un petit peu en Norvège, j'avais fait un peu de plongée spéléo avec Guylain. Et puis, pour Under the Pole 1, on s'est beaucoup entraîné en plongée sous glace, donc à Tignes, avec qui on était partenaires. Et puis ensuite en Finlande, où on est parti sur le golfe de Botnie parce que c'est ce qui ressemblait le plus à la banquise en Europe. Donc on est parti 2 semaines tirer nos traîneaux sur le golfe de Botnie et plonger dessous. Quand on est rentré d'Under the Polar, en fait, on a eu un gros, gros succès avec ces images. Donc ça, c'était vraiment très chouette parce que on a emmené ce film en festival, on a écrit un livre et le film, il a presque gagné tous les premiers prix des festivals où on le présentait. Ça marchait vraiment bien. Donc il y avait une très belle reconnaissance pour le travail qu'on avait fait. Et c'était vraiment très chouette et motivant. Donc forcément, on a eu envie de continuer. Et par contre, on avait cette frustration d'être resté que 47 jours alors qu'on venait de bosser 2 ans sur un projet et on se disait on va pas rebosser autant pour rester aussi peu de temps, c'est pas possible. Donc on a réfléchi aux moyens de continuer à explorer en plongée le milieu polaire, d'emmener plus de monde, de pouvoir faire de la plongée plus profonde et de rester longtemps. Et donc là, il s'imposait à nous le moyen pour le faire. Et évidemment, le bateau semblait être un très bon moyen. Donc on a commencé à chercher un bateau. Le Wai, c'est un voilier en aluminium. Je dis souvent, c'est un vieux bateau neuf. Alors, c'est plus très vrai maintenant, mais c'était vrai quand on l'a acheté parce qu'il avait 30 ans, mais il avait presque jamais navigué pour différentes raisons. Et en tout cas, c'est un voilier qui a été fait d'une construction vraiment aluminium très épais. Une coque renforcée avec des francs-bords très hauts, donc il est très sécurisant. Et puis évidemment, nous, il fait 19,50 m de long. Et nous, on l'a adapté à nos besoins, donc qui étaient besoin polaire et puis besoin de plongée. Donc évidemment, on a rajouté un dodger, cette espèce de grosse casquette pour se protéger à la barre des intempéries. On a fait un coffre sur le pont à la place de la table pour l'apéro. Ça ne nous empêche pas de prendre l'apéro, mais pour mettre le compresseur à bord. On a évidemment rajouté 2 poêles pour faire du chauffage en milieu polaire. On a transformé des bannettes doubles en bannettes simples. On a supprimé 2 toilettes pour faire une couchette supplémentaire. Donc on l'a vraiment optimisé pour nos besoins. Globalement, c'est un bateau qui est marin, qui est solide, et puis qui nous permet de pratiquer la plongée dans de très bonnes conditions, quoi. Il a une taille raisonnable, il fonctionne bien à la voile. Il a un type de gréement qui fait qu'il se manœuvre facilement en équipage réduit, et ça aussi, c'est quand même très agréable. Il pardonne beaucoup. Je suis pas très objective, mon bateau, c'est le plus beau des bateaux, donc... Et Under the Pole s'est monté, Under the Pole 2 s'est monté sur ces bases-là, à savoir qu'on a vendu notre maison, on a tout vendu, on a fait un emprunt pour acheter le Wai, on a tout quitté, toute l'équipe qui s'est constituée autour de nous, qui était une équipe vraiment compétente et vraiment pro, quoi, ben. Ils sont venus bénévolement. Certains ont même payé leur billet pour venir. Avec très, très peu de moyens, on a réussi à faire une expé de 2 ans qui était incroyable, avec un hivernage dans la banquise et les premières plongées à 100 mètres sous la banquise et en milieu polaire. C'était une première aussi. Donc, c'était vraiment une expé dingue. Et du coup, Under the Pole 3, il y avait une vraie volonté de cranter encore, et on va essayer de rester dans des domaines où on apporte une valeur ajoutée unique, quoi. On savait qu'on n'allait pas devenir un bateau océanographique qui pouvait remplacer l'Ifremer. On n'avait pas l'expertise de Tara dans son domaine qui faisait déjà un travail monstrueux. Mais voilà, on avait cette capacité de plonger profond partout, en milieu polaire, en milieu tropical. Et donc, on a imaginé ce parcours autour du monde qui passait par l'Arctique, l'Antarctique et par le Pacifique. Et il y a Guylain qui a cette passion de la plongée sous-marine très, très forte et et l'envie toujours de repousser les limites, j'ai envie de dire. Et lui, il disait, voilà, avec nos recycleurs de plongée, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, on peut difficilement faire mieux en termes d'incursion sous-marine, quoi. On est un peu, en tout cas pour aujourd'hui, on est au bout de ce qu'on peut faire. Ce qui nous limite, c'est le temps. Et on a commencé à dire, et pourquoi pas essayer d'avoir la tente de seconde du plongeur, quoi, où on pourrait se reposer, manger un truc et repartir. Donc, on a commencé à réfléchir à un moyen super léger, comme ça, qui nous permettrait de repousser le temps en plongée. Et tu parles du moyen super léger, c'est monter littéralement un bureau d'ingénieur, un bureau d'études interne à North Pole, où Guilin, Sylvain Pujol, les deux ingénieurs qu'on avait en interne, et Scott Cameron, un ingénieur américain qu'on a recruté pendant plusieurs mois pour faire ce travail-là avec nous, on dessinait la capsule. Donc l'idée, c'était qu'à l'intérieur de cette capsule, ce soit comme un gros recycleur de plongée avec des cartouches de chaux qui filtraient le CO2, une injection d'oxygène, mais quelque part, c'était assez simple. Et il nous fallait la vue à 360 avec ces deux grands dômes pour pouvoir observer l'extérieur, parce qu'on avait bien conscience que c'était ces moments à l'intérieur où on ne faisait pas de bruit, où on était invisible, qu'on allait pouvoir observer des choses.
Toute ma vie, j'ai été poussé par une insatiable curiosité. Et la découverte m'apporte toujours de grandes joies esthétiques ou spirituelles. Mais je pense aussi que ce sera le privilège des hommes de notre époque de pénétrer dans ce domaine inconnu et de l'utiliser tout en le protégeant.
En 1962 et 1963, Cousteau a inauguré la plongée à saturation avec précontinent 1 et 2, les premières colonies humaines sur le fond marin, revendiquant pour l'homme de nouveaux territoires, la plateforme continentale qui s'étend de la côte à la zone où le fond atteint 180 mètres. Une partie de l'expérience Précontinent 2, qui a duré un mois, ont tous été déroulés dans une maison sous-marine située à 30 mètres de profondeur. Deux hommes y ont vécu et y ont plongé pendant 7 jours. Mais Cousteau songe déjà à l'étape suivante, une colonie à 100 mètres de profondeur. Bien loin de notre monde où luit le soleil et où souffle le vent.
La plongée technique, c'est un peu une manière différente de plonger, puisque donc on plonge avec des recycleurs. Les recycleurs, c'est un appareil qui, contrairement aux bouteilles qu'on consomme en recrachant en fait ce qu'on respire, là, on est dans un circuit fermé. Donc, il y a une cartouche de chaux qui va venir filtrer le CO2 et une injection d'oxygène. Et après, on a une bouteille d'oxygène pur d'un côté et une bouteille qu'on appelle le diluant de l'autre, qui peut être de l'air, mais qui peut aussi être un mélange avec de l'hélium. Et là, ça va faire ce qu'on appelle du trimix. Et cet hélium, on va le doser à des quantités en fonction de la profondeur où on veut aller pour supprimer en fait la narcose. Donc la narcose, c'est ce qu'on appelle aussi l'ivresse des profondeurs. Donc nous, quand on plonge profond, on est complètement clair. De toute façon, sinon, ce serait bien trop dangereux et très peu efficace d'ailleurs aussi. Donc on passe d'un type de plongée, la plongée classique, où on est toujours en train de regarder ce qu'on consomme comme air et on remonte quand on n'a plus rien, à un type de plongée, la plongée en recycleur, où en fait, on ne regarde plus trop ce qu'on consomme parce que globalement, sauf problème, on a du temps devant nous parce qu'on peut faire des plongées jusqu'à 5 heures. Mais par contre, on regarde ce qu'on respire. On est tout le temps en train de regarder si le mélange est bon, s'il n'est pas toxique, si l'électronique fonctionne bien, si tout fonctionne bien. Donc, c'est un type de plongée un peu différente auquel il faut se former sérieusement et qui demande beaucoup de rigueur. Et moi, personnellement, je m'y suis mise assez naturellement finalement parce que on la pratiquait under the pole. Cela dit, au Groenland, j'ai pas voulu. J'avais passé déjà un premier diplôme de recycleur, mais j'ai pas voulu en faire dans les régions polaires. Je trouvais ça trop compliqué de cumuler la plongée en eau froide et le recycleur que je débutais. Et puis à l'époque, j'avais Robin et Tom qui étaient encore petits. Et c'est des plongées, quand on s'y met, je pense qu'il faut s'y mettre un peu de manière ardue pour avoir les réflexes, pour avoir la main, quoi. Et quand on est arrivé en Polynésie, c'était le moment parfait pour moi de m'y mettre pour plusieurs raisons. On avait embauché Camille, la nounou de mes enfants, à plein temps. Donc j'étais très libérée de ce point de vue-là. Je pouvais plonger la tête libre. On était dans des eaux chaudes, ce qui facilite vraiment l'apprentissage et la mise en confiance. Et puis, on a commencé le programme de plongée par un mois avec l'instructeur Aldo Ferrucci. Moi, je suis passée d'un stade où je me disais je ferais les plongées à 60 mètres à un stade où je me suis dit, ouais, je me sens d'aller à 90, 100, 120 mètres à la fin. Parce que je me sentais sûre de moi et en confiance. La plongée technique, c'est un moyen incroyable de pratiquer la plongée sous-marine et l'exploration, j'ai envie de dire, à un niveau supérieur. Mais ça demande pas mal de compétences, beaucoup de rigueur et j'ai envie de dire aussi un gros travail d'équipe. Pour nous, en tout cas, à bord, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que d'abord, il y a un directeur de plongée à bord. Nous, sur le bateau, c'était Julien Leblond qui se partageait ce rôle-là avec Guilin. Donc, il faut compter sur le reste de l'équipe d'une part et compter sur la sécurité en surface qui doit pouvoir très, très vite déployer ce qu'on appelle la ligne de sécurité, la ligne de décompression, avec des bouteilles adaptées pour nous permettre de finir les paliers. Et c'est ce qui s'est passé. Par exemple, on a eu un seul gros incident, nous, sur ce programme-là. On n'a pas su repérer le comportement territorial d'un requin gris au début de l'expédition. Et Julien Leblond, il s'est fait mordre à la tête par ce requin à 80 mètres de profondeur, alors qu'il remontait d'une plongée de 120 mètres. Donc, on était 7 plongeurs sous l'eau. Guilin était avec Julien. Et à ce moment-là, il est mordu à la tête, il saigne quand même assez abondamment. Et le requin a aussi mordu la boucle de son détendeur. Donc le recycleur prend l'eau. Donc on a plusieurs problèmes. Julien, il est blessé, il a 2h30 de décompression à faire. Et il a un recycleur qui est HS. Et là, vraiment, ce jour-là, moi, j'ai compris toute la nécessité de cette rigueur et de ces entraînements qu'on fait à répétition régulièrement. Parce que là, c'est vraiment le travail d'équipe et l'enchaînement s'est fait vraiment par automatisme. C'est-à-dire, on envoie le parachute jaune, qui est le signe pour le zodiaque en surface, qui a un problème et qu'il faut envoyer la ligne de décompression. Par ailleurs, le plongeur qui est sur le zodiaque en surface descend en bouteille pour voir quel est le problème et pouvoir alerter les secours si besoin. Nous-mêmes, on encadre Julien et on sait qu'avec toutes nos bouteilles de secours, on a de quoi lui donner aussi un supplément. Et tout ça fait que même dans une situation qui pourrait être très grave, à un moment donné, on arrive à s'en sortir avec sang-froid et à mettre toutes les chances de notre côté. Mais ce que ça montre, c'est que ce n'est pas une pratique à avoir à la légère, quoi. Ça demande vraiment de l'entraînement, des procédures, de compter farouchement sur les gens avec qui on plonge. Et de jamais être au-delà des capacités qu'on a vraiment. Moi, ça m'arrive de dire que j'ai peur ou que je sens pas un truc, de refuser d'y aller si j'ai pas envie. Mais en fait, ça sert à rien de se surestimer parce que si on a un problème, d'abord on se met en danger, on met en danger tous les autres. Donc, je pense que c'est important à ce niveau de pratique-là d'être vraiment transparent les uns avec les autres. Et ça, moi, je considère qu'à bord du Why, dans notre équipe, on a vraiment su insuffler cette mentalité-là. Et j'ai toujours eu une confiance totale dans mes coéquipiers, qui a fait d'ailleurs que, voilà, petit à petit, j'ai pu avoir cette confiance qui me permettait d'aller de plus en plus profond. L'installation de la capsule à Montréal, elle s'est faite Très bien. Le principe, c'est que pour la faire tenir sous l'eau, puisqu'évidemment, une fois qu'elle est remplie d'air, enfin en l'occurrence de beaucoup d'hélium d'ailleurs, elle aurait tendance à remonter avec la poussée d'Archimède. Hein, donc il fallait la faire tenir sous l'eau. Et donc ce qu'on avait trouvé comme moyen, c'est des ballasts, donc deux grands cylindres qu'on remplissait d'eau une fois au fond, qu'on faisait couler en fait, qui était rempli d'air en surface, et puis qu'on a fait couler en remplissant d'eau au fur et à mesure, qu'on a positionné sur du corail mort, donc un endroit où ça n'abîmait rien. Et là-dessus, on est venu fixer la capsule. Pour réaliser ce programme, on était à peu près une trentaine. Donc on n'a jamais été aussi nombreux à Under the Pole, c'était une ruche. C'était compliqué d'ailleurs de gérer tout ça, parce qu'on n'est pas habitué. Nous, on est habitué à être 12 sur le bateau. Et puis à gérer un peu cette famille, quoi. On est un peu une grande famille à bord du Wai, voilà. Là, d'un coup, on était 30 avec des gens qui vivaient sur le Wai, des gens qui vivaient dans la maison qui était le camp de base. Sachant que le principe, c'est qu'on avait trois plongeurs dans la capsule qui séjournaient. Pour que ces trois plongeurs séjournent, il fallait une équipe qui se relaye pour leur amener à manger, ramener les cartouches de chaux, ramener les recycleurs qui avaient été repréparés tous les soirs. Et leur ramener tous les matins, remonter les poubelles, amener de l'eau, brosser la capsule pour qu'elle reste en bon état. Donc une grosse équipe de plongeurs de soutien qui était prête à intervenir jour et nuit, donc avec des personnes aussi en veille tout le temps sur le Wai, prêtes à intervenir, à être en combi en 5 minutes et à partir intervenir s'il y avait besoin. Et dans la maison qu'on a louée, qui était en face de la capsule, là, on avait ce qu'on appelait entre nous Houston, c'est-à-dire toute la communication avec la capsule. Donc, en permanence, on pouvait voir ce qui se passait dans la capsule grâce à une caméra. Donc ça, c'est un petit côté love story, un peu rigolo, mais un peu aussi, qui peut être un peu bizarre quand on vit dans la capsule. Mais en même temps, c'est assez rassurant de savoir qu'il y a une personne qui veille en permanence sur nous, jour et nuit, donc quart de jour, quart de nuit. Tout le temps, quelqu'un qui veille sur les trois personnes qui sont dans la capsule, donc qui regarde qu'ils vont bien, qui respire, que voilà. Et par ailleurs, qui comme sur l'ordinateur d'un recycleur, qui va avoir tous les paramètres en fait, de mesure des gaz à l'intérieur, donc le taux de CO, le taux de CO2, le taux d'oxygène. Et donc il va vérifier en permanence que toutes ces constantes là sont bonnes. On a pu tout de suite enchaîner, en fait il y a eu une première plongée de 24 heures pour tester que tout allait bien, que ça fonctionnait, voilà. Et après on a direct enchaîné sur des séjours de 3 jours. Alors pour ma part, il faut savoir que même si ça m'excitait énormément, je me sentais pas forcément capable d'y séjourner. J'avais peur d'être un peu claustro. J'avais vachement peur de devoir évacuer en pleine nuit. Enfin, voilà, des choses auxquelles on pense quand on se prépare à ça. Et puis évidemment, je m'étais imaginé que si j'y allais, ce serait Guilin, en qui j'ai vachement confiance, en tout cas dès qu'on en vient à la plongée sous-marine. Et puis assez vite, je me suis rendu compte de plusieurs trucs. C'est que on a des enfants et que donc la logique veut qu'il y ait un de nous deux qui reste avec les enfants quand l'autre part vivre 3 jours sous la mer. Que j'avais pas vraiment envie de tenter l'expérience pour quelques heures. J'avais envie de la tenter pleinement pour 3 jours. Je me souviens, après avoir vu, je crois, la fin du deuxième séjour, avoir pris Guilin à part et lui avoir dit bon, ça y est, je suis prête, je pense que je fais le prochain, j'y vais 3 jours, quoi. Et j'arrêtais pas de me dire que c'était pas possible, quoi. J'avais pas rêvé toute mon enfance devant les documentaires de Cousteau, alors que le rêve était à portée de main de vivre sous la mer, flipper et pas le faire jusqu'au bout, quoi. Donc c'est apparu comme une évidence que voilà, je voulais le faire, mais n'empêche que les jours précédents, j'en menais quand même pas large, quoi. Et puis, je sais pas, dès qu'on s'est immergé, tout ça, ça a disparu, quoi. C'est quand même une impression bizarre de s'immerger en se disant qu'on va pas retrouver la surface pendant 3 jours. Je me suis immergée, j'ai regardé vers la capsule et j'étais dans ce bon état d'esprit. Je ne vais pas dire les 3 jours les plus intenses de ma vie, mais peut-être que si, quand même. Parce que il se passe un condensé de choses en 3 jours de fou, quoi, où on revoit pas la surface. J'ai fait cette saturation de 3 jours avec Julien et Victor, qui sont vraiment des proches proches amis. Donc heureusement, parce que ben voilà, hein, il faut faire pipi, faut faire un peu sa toilette, et la capsule, comme on peut l'imaginer, il y a aucune intimité là-dedans. Donc, faut vraiment être très pote avec ses coéquipiers et puis savoir rigoler de tout, quoi. Et donc, on a passé beaucoup de temps à rigoler. Et c'est vraiment, je pense, des moments qui nous appartiennent et qui seront puissants pour toujours, quoi. Parce que du coup, on a vécu toutes ces premières ensemble, quoi. Rentrer dans la capsule, se déshabiller et se retrouver, voilà, en short, en t-shirt, à 20 mètres sous la mer, en se disant, je suis là pour 3 jours. Et puis l'arrivée de la première nuit, qui était ce que j'appréhendais. Et finalement, en fait, on allume un petit peu les lumières devant nous, et là, je vois plein de verres fluorescents danser devant nous, et je vois les poissons trompettes se mettre à l'affût pour les chasser. Et tout ce spectacle me fait complètement oublier mon appréhension, et en fait, en ce moment, encore plus magique, à tel point que le lendemain, je l'attendais. Mais voilà, mais après, pour les raisons citées précédemment, j'avais pas forcément envie de boire beaucoup, beaucoup d'eau. Et du coup, le deuxième jour, je me suis retrouvée avec une migraine terrible, la nausée. Et alors là, on se retrouve à 20 mètres sous la mer. Malade comme un chien, quoi. Donc voilà, c'était beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Des moments de très grand bonheur. Et puis en plus, cette impression de découvrir le récif corallien comme jamais. C'est-à-dire qu'en 3 jours, j'ai eu l'impression d'apprendre plus de choses sur le comportement des poissons qu'en 15 ans de plongée sous-marine. Parce que j'étais postée derrière ce dôme à regarder le récif s'éveiller, le récif se coucher, comment il se nourrissait, comment il réagissait au bruit sous l'eau, à la prédation, mais aussi au bruit quand un bateau passe, quand un groupe de plongeurs qui parfois passait. Et c'est complètement passionnant. J'avais pris un bouquin en me disant, oh là là, il va me falloir de la lecture, tu parles. J'ai un peu lu le soir, mais j'étais quand même fascinée par ce qui se passait sous mes yeux et qui évoluait avec la journée et la nuit. Il y a eu les moments où la capsule rentrait en vibration parce qu'on avait les baleines qui étaient juste à côté, à tel point qu'on se demande, on se dit pourvu qu'elles sachent qu'on est là et qu'elles nous voient bien, parce qu'on les entend tellement proches que c'est hyper impressionnant, quoi. Voilà, c'est une succession de moments super forts, super pénibles aussi, quand on est tout le temps humide, tout le temps moite. On a juste envie d'être un peu sec, quoi. Et ça, un peu comme le froid qui ne nous quitte pas au pôle Nord, bah là, c'est l'humidité, la moiteur qui ne nous quitte pas. On a la peau un peu comme si on était resté dans un bain là, en permanence. On est tout fripé. Moi, j'avais des moments là où j'étais carrément... Je me prenais pour l'héroïne de Gravity, quoi, ou d'Abyss. J'étais à fond. Puis 10 secondes plus tard, j'avais envie de faire pipi. Et puis là, c'était retour à la case, retour à la case hyper pas sexy, avec ma voix de canard en plus, parce que du coup, on respirait plus de 80% d'hélium. Donc on avait une voix de canard, franchement, qui ferait passer celle de Donald Duck pour une très jolie petite voix à côté de ce qu'on avait, quoi. Donc, ça aussi, au début, on n'arrivait pas à se parler sans rigoler. Et voilà. Et puis, au bout de 3 jours, quand on remonte, ben y a vraiment une sensation hyper étrange, qui est un peu comme de sortir d'un rêve, quoi. On a l'impression de ne pas les avoir vraiment fait, ces 3 jours-là. Enfin, pas comme d'habitude. Le temps, il n'est pas passé pareil. Et je sais pas pourquoi, moi, je pensais au... J'arrêtais pas de penser aux nourrissons quand ils sortent du ventre de leur mère. Cet air un peu ahuri qu'ils ont, où on a l'impression qu'ils ont vécu un truc hyper important et ça leur passe quelques heures plus tard. J'avais l'impression d'avoir cette sensation-là un peu de ressortir de quelque chose d'ailleurs, d'étrange et de flotter.
Et du coup, c'est quoi le programme à manier en termes de bouffe, là, ce soir?
Je crois que c'est spaghetti au bonheur. Parfait.
Ah,
froid.
Parce que,
par contre,
on n'a pas
le micro, hein.
Allez, est-ce qu'on a les fourmis?
Les fourmis?
Cordes.
Mais ça va être long.
Est-ce que tu aimerais expliquer pourquoi tu es obligé de manger avec un couteau?
Et qu'on mange le couteau de plongée. Parce qu'on a renvoyé les fourchettes et qu'on savait pas, fallait pas. Mais par contre, quand t'es jamais sous la mer et que t'as pas de fourchette, bah t'es un peu comme un con.
Ouais, voilà, c'est ça. Là, on se rend compte qu'on est quand même un peu coupé du monde, quoi.
Allô?
Maman.
On a beaucoup regardé les poissons avec Julien et Victor. Et j'ai beaucoup pensé à toi, je me suis dit que tu aurais beaucoup aimé voir ça aussi.
Allez, vous allez dire bonne nuit à maman?
Et bonne nuit mon petit cœur, gros gros bisous.
Là, on fait un type de plongée qui est encore différent puisque ça s'appelle de la plongée à saturation. C'est-à-dire que, au bout d'un certain temps passé en plongée, qu'on y reste 5 heures, 6 heures ou qu'on reste un mois, un an, en fait, le temps pour remonter à la surface va être le même. C'est-à-dire que notre corps, il est complètement saturé de gaz et le temps pour remonter à la surface va être le même. Donc, à partir de ce moment-là, on peut rester aussi longtemps qu'on veut sous l'eau. Et du coup, cette plongée à saturation, bah, elle nous permettait, dans une certaine zone de profondeur, donc pour nous, je crois que c'était entre 15 et 30 mètres, de sortir autant de fois qu'on voulait. Donc on aurait pu passer tout notre temps en plongée, sauf que ce qu'on n'avait pas totalement anticipé, c'était que nos combis allaient très sérieusement s'écraser en restant autant de temps sous la mer. Et du coup, on souffrait quand même pas mal du froid en plongée, donc on est sorti peut-être moins souvent que ce qu'on envisageait au début, mais quand même, on faisait souvent deux plongées par jour où on restait assez longtemps sous l'eau. Et donc, c'est super parce qu'on a l'impression de sortir dans notre jardin. En fait, on est derrière ces dômes toute la journée, on regarde par la fenêtre, en fait, et puis d'un coup, on s'équipe et puis on a l'impression d'aller faire un tour dans notre jardin et tous les poissons qui sont autour de nous, on a l'impression de les connaître. La tortue qui habite là parce qu'elle revient toujours au même endroit, on a l'impression de la connaître. Les deux poissons trompettes, on leur a donné des noms. Et c'était vraiment génial de se sentir à la maison, de se sentir chez soi. Dans cette zone autour de la capsule. J'ai reçu un jour dans ce qu'on appelle la navette. Les navettes, c'était les compartiments étanches dans lesquels on mettait les serviettes, la nourriture, tout ce qu'on avait besoin. Et j'ai reçu un dessin de Tom et il avait dessiné un soleil. Et j'ai trouvé ça tellement fort que mon petit de 3 ans, il m'est dessiné un soleil alors que j'étais au fond de l'eau depuis 2 jours. Quoi. C'est marrant parce qu'ils n'ont jamais été ébranlés par ça, Robin et Tom. Quoi. Il y a leur papa ou leur maman qui était à 20 mètres sous l'eau dans la capsule. Et puis, ils nous parlaient. Comment ça s'est passé, ta journée dans la capsule? Ah, ben, c'est sympa. Et puis, ils me parlent de leur truc, genre, mais j'ai perdu ma petite voiture. Et puis, Robin, il m'a embêté en faisant ça. Et c'est pareil, je me souviens de remonter de ma première plongée à 120 mètres et j'arrive devant le bateau et Tom sur le pont, il m'interpelle en me disant « Mais tu sais où est mon camion rouge ?» Et en fait, moi, je reviens d'une plongée de 3h30, j'étais à 120 mètres et tout et mon gosse, il me voit remonter et puis il me demande un truc d'enfant, quoi. Et je trouve ça génial parce que ça nous reconnecte quand même vachement avec la réalité. Tom, il a mis un masque et voilà, il a vu des requins, des raies. C'est déjà exceptionnel, hein, à 2-3 ans, de voir tout ça. Et Robin, lui, par contre, il a eu vraiment l'âge de faire son premier petit baptême de plongée dans 3 mètres d'eau, mais voilà, avec sa petite bouteille, sa petite stab, tout ça. D'aller nager plusieurs fois avec nous, avec les baleines, aller nager avec les baleines à bosse. Et voir mon fils de 6 ans face à un baleineau, c'était un des plus beaux moments de ma vie. C'était incroyable. Et j'ai repensé à mon enfant, moi c'était mon rêve. Alors eux, évidemment, c'est un peu frustrant parce qu'ils ne s'en rendent pas compte, c'est leur vie. Donc, Mais quand même, l'émerveillement dans leurs yeux à certains moments, ça a vraiment pas de prix. Je pense qu'on peut plus jamais voir la mer, l'océan de la même façon quand on a regardé une baleine dans les yeux, quoi. Pour moi, la mer, c'est indissociable de ma personne depuis toujours. C'est-à-dire que moi, c'était l'endroit où je me sentais bien. C'était en mer, c'était quand je nageais, c'était quand j'étais dans l'eau. C'est vraiment... pour moi, depuis toujours, ça a été quelque part le fil rouge un peu de ma vie, quoi. C'était l'eau et la mer. Donc, c'est important pour moi. Et je me sens jamais aussi bien que quand je suis sur le bateau. Et quand je suis plus sur le bateau, j'ai envie d'être pas loin de la mer. Et j'aime être dans l'eau, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment important pour moi. Ça fait vraiment partie de moi.
Emmanuel continue à diriger avec Guilin les expéditions en dehors de pôle. Le Y, leur bateau, suit son tour du monde avec ses plongeurs de l'extrême à son bord. Retrouvez le portrait d'Emmanuel sur le site du podcast womenofthesis.org. Nous clôturons avec Emmanuel cette première saison. 8 épisodes sont en ligne. Vous êtes des milliers à avoir embarqué avec nous dans cette aventure, et nous vous en remercions. Une deuxième saison est prévue pour l'hiver prochain. Peintre, régatière, amiral, écrivaine, ces aventurières de la mer sont nombreuses, leurs histoires tout aussi passionnantes. Pour cette deuxième saison, nous avons besoin de vous. En attendant, parlez de ce podcast autour de vous. Commentez, notez, et contactez-nous pour nous raconter vos histoires de mer. Nous serons ravis de les entendre et de les partager.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.